Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine interactif. Plusieurs détenus se sont évadés de la prison centrale de Makala après une attaque de ces centres pénitentiaires mercredi 17 mai à l'aube. De nombreux morts étant dans les rangs des détenus que des gardiens policiers militaires ont été signalés. En l'absence de bilan officiel, on note tout de même l'incendie des parties importantes de cet établissement carcéral, notamment le bureau de la police et celui du directeur de la prison. L'attaque et les évasions qui ont suivi à Makala relance la problématique de la sécurisation des prisons à travers le pays. Selon vous, quels seraient les préalables pour une sécurisation efficace des prisons? Notre standard est déjà ouvert au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat s'étend également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Goy est à la mise en onde de ce programme réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamenji vous les présente sous la supervision de Martin Seboujangwe Fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Notons qu'avant d'entrer dans ces studios, nous avons appris une autre évasion massive survenue cette nuit à la prison des Kasangulu dans la province du Congo central. Selon des sources concordantes sur une quatre-vingtaine de prisonniers, près des 60 ont pris les larges. Vous suivrez le développement de cette actualité dans le journal des midi de Radio Okapi. Et ceci relance encore le débat sur la problématique de la sécurisation de prison. Tout cela est prévu dans la loi, par exemple l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime pénitentiaire détermine de quelle manière une prison ainsi que une maison d'arrêt peuvent être sécurisées. Alors nous en parlons avec vous d'une manière efficace. Qu'est-ce qui doit être fait dans votre milieu pour la sécurisation des prisons? Merci de nous rejoindre au 081 890 49 69 pour les débat. En direct, Maître Adrien, vous êtes à Kananga, vous êtes juriste et membre de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Vous êtes avec nous, Maître Adrien, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Menji, bonjour à tous les amis auditeurs.
On sait qu'on a déjà évoqué plusieurs fois la question de prison dans ces magazines, non seulement les évasions en province, mais aussi ce qui est arrivé à Kinshasa. Comme je le disais tout à l'heure, plusieurs personnes estiment qu'il faille réfléchir aujourd'hui pour avoir des mesures très efficaces afin de sécuriser les prisons. Qu'est-ce qui doit être fait?
Merci Pierrot de l'opportunité que vous m'offrez. Et là, je m'en vais d'abord féliciter la Radio Okapi parce que la Radio Okapi anticipe toujours les faits. Rappelez-vous, lorsque la Radio Okapi organisait une telle émission, pendant que les faits, la situation était encore calme, on ne savait pas qu'il devait y avoir des évasions. Je retiens toujours avec ma célèbre phrase pour vous dire que j'ai fait une ronde au niveau du Grand Kasaï, donc bon, la province du Kasaï occidental démembrée. J'étais à Mweka, j'étais à Ilebo, j'étais à Luebo, à Chikapa, à Kananga. Donc j'aime toujours revenir pour vous dire que nos prisons ne sont pas sécurisées et les prisonniers qui sont dedans, qui y demeurent, ce sont des volontaires. Aujourd'hui maintenant, avec l'évasion d'une haute prison, comme la prison de Makala, en est une illustration. Pour répondre maintenant à votre question, Pierrot, il y a trois faits à soulever. Premièrement, comment un endroit comme la prison, c'est un endroit où on est censé garder tous les malfrats. Cet endroit-là, sous d'autres cieux, c'est un endroit à haute sécurité. Il y a c'est que le gouvernement est en train de se réveiller au jour d'aujourd'hui. Les caméras de surveillance, partout ailleurs, ces caméras-là sont placées pour voir tout mouvement de condamnés et des détenus. Mais malheureusement, dans toutes nos prisons, là, c'est donc en tant que membre de la CAS, tel que vous l'avez dit, notre expertise, lorsque nous circulons dans toutes nos prisons au niveau de la province du Kassai central et au niveau de la province du Kassai, les détenus sont nombreux que les condamnés, ce qui est une aberration et inacceptable. Maintenant, lorsque nous entrons dans le détail, qui sont les détenus? Ce sont, dans la plupart des cas, la situation des règlements des comptes. Un monsieur qui n'a rien à voir avec un fait infractionnel, mais parce que je suis cousin de tel, pour satisfaire les appétits donc gloutants donc de mon ami, de ma copine, de mon frère, il faut arrêter ce monsieur-là, le jeter en prison. Là, c'est de un. De deux, lorsque vous allez parmi les condamnés, ce sont des gens donc cités par inadvertance, mais parce que la justice congolaise est ce qu'elle est là, donc ce qu'elle est, tout le monde se retrouve, même des innocents qui sont là-bas. Donc il y a possibilité que la personne qui s'est retrouvée innocente en prison de multiplier des stratégies pour voir comment il faut opérer une évasion et lorsque cette prison-là n'est pas sécurisée. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que c'est la famine, parce que quelqu'un qui était dans une situation normale à l'extérieur, mais arrêté en prison, parce que nos prisons au niveau de la province du Kassai central et au niveau de la province du Kassai, c'est une précipitation à la mort. Lorsque quelqu'un a peur maintenant de mourir avant peut-être le timing, il est en train de faire tout pour fuir. Quelles sont les solutions maintenant pour répondre à votre question? Je pense que les solutions sont simples. On doit d'abord commencer par réhabiliter nos prisons, parce que les constructions de nos prisons datent, donc les unes de l'époque coloniale, les autres une année ou cinq ans plus tard après l'indépendance. Deuxièmement, il faut renforcer la sécurité dans nos prisons. Lorsque vous allez dans nos prisons, je prends à la volée la prison d'Ilebo. Ilebo, la prison est exécutée par deux policiers. Allez-y comprendre quelque chose. Lorsque on a à peu près 800 personnes qui sont dedans. Lorsqu'il y a deux prisonniers, donc deux policiers, donc la stratégie peut être montée à tout bout de champ. Troisièmement, il faut renforcer nos prisons avec donc les conditions alimentaires. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse donner l'image à l'extérieur que lorsque vous êtes en prison, vous êtes déjà condamné à une mort. Donc vous attendez vous-même des morts. Et lorsque vous allez dans des prisons, il n'y a pas des aliments, il n'y a pas de médicaments. Allez même à la prison centrale de Kananga. Vous allez pleurer quelqu'un qui est malade. Il n'y a même pas une Novalgine pour qu'on puisse donner à ce monsieur-là. Donc voilà, Pierrot, quelques pistes de solutions que je peux donner pour ajouter aussi ce que le ministre s'est réveillé aujourd'hui pour dire que les caméras de surveillance, c'est une solution efficace parce que partout ailleurs, ce sont ces caméras-là qui permettent donc aux gardiens de prison de voir qu'il y a un monsieur qui est bien armé qui vient pour attaquer, l'autre qui vient pour donner la mort à un prisonnier. Voilà quelques pistes de solutions que je pouvais invoquer.
Merci beaucoup, maître. Vous avez évoqué ces trois pistes de solutions, la réhabilitation des prisons, le renforcement de la sécurité par le nombre élevé des agents de l'ordre, y compris aussi les caméras de surveillance, comme le ministre l'a évoqué parmi les mesures par rapport à la situation à Kinshasa, mais aussi les conditions de détention qui peuvent aussi être améliorées. Cela ne peut pas pousser chacun à chercher des subterfuges pour pouvoir s'évader. Mais au-delà, vous avez estimé que le fait qu'il y ait des surpeuplements dans nos prisons, par le fait qu'on ait beaucoup de détenus qui sont condamnés, ça peut aussi amener les gens à toutes ces conditions de survie. Alors ce sont là les pistes et des solutions pour arriver à sécuriser nos prisons. Là, vous vous êtes focalisé sur la situation à Kananga, Luebo, Mweka, Ilebo et Chikapa. Merci beaucoup. Franck, merci d'être avec nous de Vienne. Je crois qu'on a eu déjà plusieurs débats dans Parole aux auditeurs autour des questions, des conditions dans les prisons. Mais si on doit se focaliser sur cet angle retenu autour de la sécurisation après ces évasions massives, Franck, pour vous, quel devait être le mécanisme plus efficace qui devait être mis en place par le pouvoir public pour la sécurisation des prisons?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Merci au maître Adrien. Moi, je crois que nous devons commencer par rappeler certains préalables sans lesquels on risque un peu de spéculer, sans rester à l'essentiel. Monsieur le journaliste, chez nous, vous savez bien que les droits d'abord, les droits des citoyens n'est pas respecté. Un citoyen normal qui travaille, un citoyen normal qui est malade, un citoyen normal qui a besoin de l'éducation, un citoyen normal qui a besoin d'un logement, un citoyen normal qui a droit à la vie, il arrive que notre gouvernement bafoue intentionnellement les droits de ses citoyens. Et c'est à partir de là, si d'abord on ne sait pas respecter les droits des citoyens qui sont en liberté, je verrais mal que le même arrive encore à respecter les droits des citoyens qui ont quand même des restrictions. Puis, quand on doit un peu voir la manière dont s'est passée cette situation, il y a des gammes de questions que nous pouvons nous poser, mais seulement quand on se pose des questions vraiment ouvertes de manière responsable, on est parfois qualifié d'idiot, on est qualifié de ceci. Mais ça fait déjà voir que l'État, notre gouvernement, ne maîtrise pas tout. Une prison, on l'appelle communément lieu de détention. On l'appelle lieu de détention parce que c'est un lieu exceptionnel dans la mesure où on garde les citoyens qui ont vraiment besoin d'être surveillés et d'être tenus sous contrôle. Ce sont des gens qui ont des problèmes juridiques, ce sont des gens qui ont quand même des citoyens, des dossiers très sensibles et dont on devrait vraiment suivre la procédure de plus près. Mais seulement chez nous, on peut mettre quelqu'un en prison sans respecter la procédure. On peut avoir des prisons qui ne sont pas subventionnées. On peut avoir des prisons avec des prisonniers pour des dossiers seulement politiques. C'est comme ça que quand on arrive à tout politiser, c'est l'une des conséquences. Monsieur le journaliste, je venais d'être là au pays. Notre prison de Makala, c'est parmi les prisons hautement surveillées. Je voyais là plus de 100 militaires, plus de 100 policiers, c'est à chaque instant verrouillé. Mais ces malfrats-là qu'on nous présente, qui sont venus, ils avaient quelle arme pour arriver quand même à maîtriser tous ces gardiens qui étaient là? Moi, personnellement, j'aimerais reconnaître ce que le maître Adrien venait de dire. Améliorer tout ça. Mais je crois qu'il faut aussi d'abord arriver à dénoncer les ramifications de complicité réciproque qui ont occasionné ces évasions. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas un groupe de prisonniers jusqu'à 1000 arriver à sortir s'il n'y avait pas de complicité à l'interne et à l'externe. Alors, s'il y a autant de complicité, nous devons aussi nous demander quelle est la part des gardiens qui étaient là-bas, quelle est leur part de responsabilité.
Oui, dans je crois à ce niveau-là... Oui, à ce niveau-là, Franck, en ce qui concerne les questions à se poser, c'est pourquoi nous laissons, hein, comme le ministre l'a dit, aux enquêteurs de faire leur travail et nous on retourne parce que les faits sont déjà là. On ne saura pas maintenant dans cette émission commencer à mener des enquêtes pour savoir qui a fait quoi, qui était responsable où, mais nous restons dans le cadre des pistes et des solutions pour l'avenir parce que je venais de le dire à l'introduction de cette émission que nous avons appris que cette nuit à Kasangulu, ici à côté, dans la province de Congo central, une évasion massive aussi dans la prison, une centaine de prisonniers est parti. Alors, ce genre de fait, ça c'est arrivé aussi il n'y a pas longtemps à Beni, c'était à Bounia. Voilà, ça arrive de temps en temps à travers le pays. Mais alors, quelles sont les pistes de solutions efficaces? Mais la question, en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés, on ne saura pas entrer dans les enquêtes. Les temps que ceux qui travaillent, on pourra peut-être savoir dans les jours à venir qu'est-ce qui s'est passé, qui était où, qui a fait quoi. Mais alors, pour éviter que ce genre de choses arrivent, c'est arrivé à Kinshasa hier, avant hier et cette nuit à Kasangulu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces genres de mouvements? C'est pour cela que nous nous focalisons plus sur les pistes des solutions, Franck.
Pour moi, les éléments sont vraiment aussi simples. Je dirais qu'il nous faut d'abord un sérieux dans ce que nous faisons. Parce que si on spécule seulement sans sérieux, ça n'ira pas. Mmh. Il faut du sérieux au niveau de l'administration,
il faut améliorer les conditions de détention des prisonniers, mais il faut aussi subventionner toutes les maisons. Ça fonctionne avec quels frais? Parce que pour améliorer, il faut un budget. Pour améliorer, il faut. J'étais un peu surpris d'apprendre seulement que c'est seulement après ce coup qu'on pense à mettre des caméras de surveillance. Mais une maison de détention avec plus de 2000 détenus sans caméra de surveillance au XXIe siècle, dans un État qui se dit moderne, il y a quand même des histoires quand on les dit, les gens pensent que en les disant comme ça, ça va quand même calmer les attentions, mais au contraire, ça suscite encore des élans de curiosité. Donc moi, je dirais qu'il faut d'abord du sérieux, et de la part du gouvernement, et de la part des dirigeants, et de la part de tous ces gardiens-là.
Voilà, c'est
mais
une préoccupation,
avec ce
sérieux-là,
il faut mettre chacun à sa place, il faut qu'il y ait une justice, mettre tous ces travailleurs dans leurs droits. Comme ça, ils ne seront plus tentés à être pris pour cible, à être travaillés pour... ouvrir des couloirs comme ça. Donc,
merci.
Je crois que il faut d'abord du sérieux. Sans ce sérieux-là, ça n'ira pas chez nous.
Merci beaucoup, Franck. Le sérieux, vous avez estimé que c'est pas seulement du gouvernement, c'est une préoccupation aujourd'hui au niveau de la société, mais avec la responsabilité du pouvoir public, que ce soit les conditions de détention, mais les conditions aussi d'encadrement de ceux qui travaillent comme surveillants, ceux qui travaillent pour la sécurisation. Il faut considérer cela dans l'ensemble, dans la réforme, dans un bloc plutôt, et comme le disait aussi Maître Adrien, remonter au niveau même de la pratique, qui sont condamnés, qui sont détenus. Toute cette révision doit être prise au sérieux. C'est de cette façon qu'on peut arriver vraiment à éviter ces genres d'actes. Valérie, merci de nous avoir appelé de Kindu. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais, puisque le thème est bien délimité, nous devons respecter vos orientations, c'est juste pour la sécurité. Alors, je voudrais l'aborder en termes de responsabilité par rapport à l'État, par rapport à la magistrature, aux défenseurs des droits et à la population. Commençons avec l'État. Il est vrai que l'État doit d'abord construire de nouvelles prisons. C'est la première sécurité. Parce que toutes les prisons ont été construites sous deux inspirations. La première, c'était par rapport à l'effectif au nombre de cette époque-là. À l'issue de cela, il y a eu une croissance démographique, mais l'État n'a jamais songé à augmenter le nombre de prisons. C'est par exemple les infrastructures sociales de base. On n'a pas augmenté. De même, on doit augmenter les écoles, de même, on doit augmenter les maternités, au fur et à mesure qu'il y a croissance démographique. Deuxième élément d'inspiration, c'était les normes. Je sais que la prison de Makala est construite dans les normes. Mais toutes les autres prisons dont vous venez de parler là, Béni, par-ci, par-là, est-ce que c'est construit dans les normes? Je crois non. Je prends un exemple ici à Kindu, la prison de Kindu. Est-ce que la prison de Kindu, lorsqu'elle était construite, quelle population y avait-il à Kindu? Parce que c'est vers les années 2012 que Kindu a commencé à connaître un surpeuplement. Ou une croissance démographique, je dirais. Et même en termes d'infrastructure, Kindu ne méritait même pas d'être un chef-lieu. C'est à cause de la Somenki et de l'aéroport, parce qu'il fallait marquer la Cassiterite et les infrastructures de la SNCC, que Kindu est devenu un chef-lieu. Voir de près, c'est le territoire de Kasongo qui pouvait être un chef-lieu, parce que là, au moins, on y trouvait depuis toujours des infrastructures laissées par les Arabes. Parce que c'est le bastion de l'islam, ici au Congo. Alors, l'État doit songer à construire de nouvelles prisons, premièrement, et deuxièmement, à respecter les normes. Pourquoi cela? Parce qu'avec cette précaution, nous aurons un effectif voulu, adéquat, escompté, qui convient dans toutes les prisons. Et cela va nous empêcher de telles blagues. Comment voulez-vous qu'une prison construite pour 1500 personnes puisse abriter près de 8000 personnes? C'est pas correct. C'est comme la prison de Mbujimaï. Une prison construite ici, c'est pour 250 personnes, mais vous avez appris en 2011, après les événements de 2011, comment on était arrivé jusqu'à 850 détenus. C'est des choses comme ça qui peuvent provoquer des évasions. Deuxièmement, du côté de la magistrature, j'ai déjà déploré la crise d'éthique dans nos magistrats. Parce que c'est n'importe qui qu'on envoie en prison. On n'acquitte personne. Pour acquitter, il faut qu'il y ait d'autres droits. Mais même si quelqu'un, après avoir comparu, il s'est avéré qu'il n'a pas droit à la condamnation, évidemment, cet homme doit d'abord aller en prison. La prison, c'est un lieu de prisonniers, un lieu de condamnés et de détenus. Mais qu'est-ce qu'on nous a révélé? N'est-ce pas qu'il y avait 70% de détenus et 30% de condamnés? Cela signifie qu'il y a faiblesse au niveau de l'appareil des judiciaires de l'État. Donc, les gens, ils vont sans être jugés et ils y restent pendant longtemps, ils augmentent la population carcérale. Et en fin de compte, on va se plaindre qu'il n'y a pas assez de budget. Ces gens, votre famille, n'ont point d'oreille, dit-on. Et à un moment donné, c'est de la suppression, c'est de l'énervement au sein de la prison. Or, l'évasion, c'est ça la liberté d'un prisonnier. Qu'est-ce qu'il reste encore à un prisonnier de chercher qui serait l'évasion? La sécurité, ce n'est pas au prisonnier de sécuriser la prison, c'est un État congolais. Je termine avec l'État, je viens de terminer aussi avec la magistrature. Je vais au niveau des défenseurs judiciaires et du barreau. Les barreaux aussi doivent dénoncer avec les défenseurs judiciaires. Je suis content qu'on vienne de voter la loi pour les défenseurs des droits humains. On doit dénoncer toutes ces choses afin de contraindre l'État à agir dans le sens du bien. L'État, bien que l'État est là, soit là pour nous, mais vous savez que l'État a aussi besoin de notre impulsion pour se mettre dans les droits chemins. Si nous respectons l'État, ce n'est pas parce que les autorités sont élevées en dignité. Non, nous les respectons parce que c'est nous qui les avons établis. C'est comme quelqu'un qui s'est marié à sa femme parmi plus de 2 milliards de femmes du globe. Et finalement, il doit respecter la femme parce que c'est celle-là qu'il a choisie dans sa vie, comme compagne. C'est de cette manière que nous respectons les autorités. Et la loi même prévoit en sorte que l'action de l'autorité soit aussi contrebalancée par des remarques de la population. Les barreaux sont là, les défenseurs des droits humains sont là. Parlons maintenant de la population.
Rapidement, oui, Valérie.
Ok. Je chute par là pour ne pas monopoliser la parole. Au niveau de la population, elle doit aussi dénoncer les criminels qui ont fui la prison parce que la place du criminel, c'est en prison. Elle doit dénoncer. Et elle doit aussi dénoncer, même dans les quartiers, lorsqu'il y a des arrestations arbitraires. Un commandant d'un conteneur, là, qui veut se faire des dividendes, qui doit rétrocéder ses effets de tour à ses capitaines et autres. Lorsqu'il y a des arrestations arbitraires dans un quartier, il faut qu'on dénonce.
Merci beaucoup Valérie, je crois bien chacun s'est retrouvé dans votre intervention et l'ensemble de toutes ces responsabilités, l'État, le magistrat, la population, les avocats, les ONG, et si chacun se met à faire son travail comme il faut, on peut arriver à bien avoir des mesures plus efficaces pour sécuriser les prisons. Maître Serge, merci d'être avec nous de Camina. Je crois notre invité est déjà en ligne, Maître Onésime Ndoudi, à qui nous allons accorder la parole d'un moment à l'autre. En attendant, on fait un bond à Camina. Maître Serge, bonjour. Maître Serge, vous êtes avec nous? Des petits soucis de ligne avec Maître Serge. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, c'est le 081-890-4969, 081-890-4969. Nous évoquons dans cet échange la sécurisation des prisons après l'évasion massive ici à Kinshasa, dans la prison centrale de Makala, mais aussi la prison qui est intervenue cette nuit à Kasangulu dans le Congo central. Comment arriver à sécuriser efficacement les prison. Tout à l'heure, nous allons accorder la parole à notre invité, Maître Onésime Ndoudi, président national de l'Organisation congolaise pour la défense des prisonniers. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Baimboka Kinshasa Basipe Babali. Mwango mabokomisi nkombo po ya maponomi mokomi na suka. Bokende na lombango kokomisa nkombo oba centre iye izwami nzinga zinga ya bisika bovandi.
Mambi mabokomisi nkombo po ya maponomi masalemi po ya banani.
Mambi mana matali bana Kongo banso basipe babali. Ezala baye bako bikaka omokilimi ya bapaya nape baye bako bikaka kati na ekolo bako kisi mibu ya kopona. Ezali yo. Oyo osili kokokisa mibu zomi na mwambe, pe yo oyo osili koleka mibu zomi na mwambe. Ozali na mibu zomi na motoba, pe okokokisa mibu zomi na mwambe, na mobu koto ibale na zomi na mwambe, yo pe kende kokomisa kombo ya yo.
Ngai na sili kozwa ya ngai mokanda ya maponomi, na kokende kopona, ebongo yo.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Maître Onésime Doudi, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Voilà, nous évoquons dans cet échange la question, la problématique de la sécurisation des prisons. Alors, vous qui travaillez pour la défense des prisonniers, quand il y a des événements comme ça qui surviennent, quelle est votre réaction?
Nous regrettons d'abord les événements. C'est ce qui nous indigne de plus aussi, c'est le comportement de nos autorités, avec la légèreté avec laquelle ils traitent les dossiers, et ça laisse à désirer, parce que ça fait mal au cœur, puisque ce sont des êtres humains. Mais c'est ça la République démocratique du Congo.
Mais est-ce qu'il est arrivé dans vos plaidoyers, dans votre travail, de mettre le puce à l'oreille des autorités, qu'un jour ça peut arriver, ces genres d'événements, évasion massive, comme à Kinshasa par exemple?
J'ai eu plusieurs fois, presque tous les ministres de la justice qui sont passés depuis 2006 jusqu'à ce jour, je les rencontrais et discuté avec eux sur ces problèmes. Surtout non-respect de la procédure de la détention par les magistrats qui envoient des gens en prison. Dans notre pays, il n'y a plus des affaires où on peut instruire à charge ou à décharge. Toutes les affaires sont instruites à charge. Même les faits bénins, qui les magistrats peuvent arranger avec les partis et laisser les gens rentrer à la maison, on les envoie en prison rien que pour cet moyen de chercher de l'argent. Au niveau de la magistrature, le mandat d'arrêt provisoire est devenu comme un sujet d'extorsion. Et pour se faire de l'argent, il faut envoyer quelqu'un, il faut placer quelqu'un en détention préventive. Comme ça, la famille va se débrouiller, vendre même la maison, voilà, pour pouvoir donner au magistrat pour obtenir la liberté, même provisoire, de leurs membres de famille. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de choses qui se passent dans les prisons en RDC. Particulièrement en Kinshasa.
Voilà. Et quand il s'agit de la sécurisation, pour vous, dans vos plaidoyers, qu'est-ce que vous avez exactement trouvé comme faille, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs où vous avez pu effectuer vos enquêtes quand même depuis 2006 jusqu'en ce moment?
D'abord, les budgets alloués pour les systèmes pénitentiaires en RDC, c'est pas un budget qui peut arriver à mettre en place une sécurité qui peut sécuriser nos prisons. Et surtout que nous avons des prisons où il y a des prisonniers politiques, et dont les ministres appelaient il y a même des figures emblématiques, comme il a voulu les différencier, au fond des prisonniers comme tout autre prisonnier, parce qu'ils sont congolais. Les budgets alloués à la direction des services pénitentiaires n'est pas consistant. On doit augmenter à plus de 10 fois. J'ai déjà rencontré et proposé à plusieurs conseils du ministre en détention sur les budgets alloués aux établissements pénitentiaires, particulièrement pour les problèmes de la sécurité. La deuxième chose, il faut rajeunir l'administration pénitentiaire qui est déjà vieillie. Le troisième point, c'est comme à Makala, les détenus se sécurisent eux-mêmes entre eux. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce qu'un prisonnier ne peut pas sécuriser un autre prisonnier, puisque tous ceux qui sont là comme prisonniers, leur prière, c'est la liberté. Taïno Ogazo se présente, personne ne devait rester en prison. La sécurité, il faut la formation aussi du personnel pénitentiaire. Est-ce que le ministère de la Justice dit tutelle, est-ce que songe-t-il à la formation de ces personnels? Non. C'est peut-être les ONG, les qui songent un peu à pouvoir former les personnels pénitentiaires, mais l'État congolais lui-même n'a pas le budget pour ça.
Voilà, et ça, ce sont de questions, oui.
Vraiment rassurés dans nos prisons.
Voilà, ce sont des questions clés, maître Onésime, on vous garde en ligne. Ça, ce sont des questions clés. Vous avez évoqué la part du budget alloué au système pénitentiaire qui est insuffisant. Vous avez évoqué le rajeunissement de l'administration pénitentiaire. Cette question de sécurisation, ça a été évoqué dans plusieurs débats sur les antennes de Radio Capi, que ce soit dans le dialogue entre Congolais pour ces prisons. Qui s'organisent eux-mêmes pour se sécuriser, mais la question de la formation du personnel, mais tout cela est prévu en principe dans la loi. Il faut que ces mesures soient renforcées encore davantage, et c'est comme ça qu'on peut arriver à une sécurité maximum dans nos prisons. Maître Serge, je crois cette fois-ci c'est bon, vous êtes à Kamina. Bonjour Maître Serge.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Maître.
Oui. On l'avait encore parlé autrefois. Là, j'avais dit, moi, à mon humble avis, que il faut revoir vraiment notre code pénal. Puisque j'ai dit, là, je me suis souvenu, avant que le fait M. Laurent Désiré Kabila, mais il y a un militaire qui avait tiré sur un joueur. Et ce militaire était pas comme ça, il a été aussi fusillé publiquement. Alors, il ne faut jamais s'atteler toujours à l'impunité. L'impunité conduit vraiment à des mauvaises histoires. C'est là qu'ils ont fait cela. Nous devons partir de la conséquence vers la cause. Ces gens ne cherchaient quoi? On ne peut pas contourner. On connaît ces gens-là. Il fallait aussi peut-être écarter les gens-là, qui ont les cas emblématiques, les cas aggravants-là. Il fallait les écarter. Pourquoi les associer avec ceux-là qui ont des simples cas? Là, on voit qu'en tout cas, si on pouvait recourir à tout cela, on pourra trouver une solution par rapport à...
Merci beaucoup Maître Serge. Dieudonné, vous êtes à Walikale. Merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Dieudonné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une sécurité maximum dans nos prisons?
Merci beaucoup pour la question. Mais sinon, je voudrais d'abord soulever quelques cas. Parce que si chez nous Walikale, bon, nous avons toujours assisté à des cas massifs de brossing des prisonniers dans notre prison. Et il y a parfois la MONUSCO qui s'arrange parfois d'améliorer l'état de la maison carcérale. Maintenant, moi je voulais d'abord dire ceci. Qui on appelle prisonnier? Pourquoi? Parce que si quelqu'un va se trouver dans la prison, donc il a violé la loi. Il a violé la loi. Mais vous trouverez que les conditions ne sont pas revues. Par exemple, ici chez nous, il y a le cas des arrestations arbitraires. On arrête quelqu'un, on ne suit pas donc la procédure, et demain après demain, vous allez trouver la personne toujours dans la prison, et lui-même, donc la personne là, emprisonnée, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'est pas informé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la loi n'est pas respectée. On ne respecte pas la loi. Bon, si on n'arrive pas à respecter la loi, les conditions aussi des prisonniers ne sont pas réunies. Puisque c'est pas à dire que s'il y a quelqu'un qui est arrêté aujourd'hui, un prisonnier, disons par exemple, la prison, ce n'est pas la tombe. Là où quelqu'un peut entrer et il n'allait plus sortir. Donc, il faut qu'il y ait des procédures par rapport à ça. Bon, s'il faut parler maintenant d'amélioration, je ne sais pas moi. Si, par exemple, chez nous, Walikale, le nombre de policiers, donc il n'y a pas de policiers, je peux dire comme ça, puisque vous verrez que dans le sous-commissariat, il y a 3-4 policiers. Bon, 3-4 policiers, combien qu'ils vont garder dans la prison? Je pense que c'est ça. Mais aussi, dans des prisons, on trouve des prisonniers militaires. Par exemple, ici chez nous, à l'Est, nous avons toujours beaucoup de cas de militaires. Et les militaires, nombreux de prisonniers sont des militaires. Maintenant, qui va s'utiliser ces militaires-là dans la prison? Et vous trouverez que ceux qui viennent leur amener, je ne sais pas, à manger ou quoi, parce que les conditions ne sont pas réunies, il faut que ça soit à la maison. On s'arrange à la maison pour amener à manger. Et parfois, si c'est un civil qui est arrêté, qui se trouve dans la prison, on demande de l'argent pour qu'on puisse donner la nourriture. Donc vous trouvez qu'il y a toujours des problèmes, beaucoup de problèmes. Bon, j'aimerais dire ceci, que l'État prenne d'abord ses dispositions en tant que l'État. Avant d'emprisonner quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait des mesures, il faut qu'il y ait d'abord des soins médicaux. Là, j'ai entendu dit mon ami qui vient de parler sur Medico. Il dit chez nous, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Tu es malade, tu peux mourir ou pas, on ne s'intéresse pas de vous. C'est-à-dire quand tu es prisonnier, donc vous n'avez plus droit, je ne sais pas, à n'importe quelle chose. C'est ça que moi je voulais un peu soulever.
Merci.
La thématique d'aujourd'hui, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Dieudonné. Hein, vous êtes à Walikale. Vous avez évoqué l'insuffisance de policiers, hein, que ce soit au niveau des sous-commissariats, mais aussi au niveau de la prison. Mais là, il y a une particularité, c'est comment la sécurisation des prisonniers militaires, parce que vous estimez qu'ils sont nombreux dans les prisons, comme à Walikale par exemple, et il se pose un sérieux problème de comment sécuriser ces prisonniers-là, militaires, s'il y a déjà une insuffisance des agents de l'ordre, il va se poser un véritable problème, et ce sont les questions sur lesquelles l'État devrait en principe s'épancher pour arriver vraiment à maintenir une sécurité maximum au niveau de ces prisons. Nous retournons ici à Kinshasa, Maître Kadé. Merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, monsieur Elamegi.
Voilà, on vous écoute.
Bon, écoutez, cette question, il faut l'aborder de manière sereine. Hein. Il y a des gros signes de l'inexistence de l'État dans ce qui est en train de se faire. Et on doit regarder ça avec beaucoup de rigueur. D'abord, un, sur le plan du fonctionnement même de la justice et du sens de la justice de celui qui est condamné. Vous voyez ce qui se passe quand Jésus est à la croix. Regardez, il y a un grand criminel qui est à ses côtés. Lorsque l'autre lui dit, mais toi tu es Dieu, mais tu aurais dû faire tout pour que nous sauver et te sauver aussi. L'autre lui dit, mais nous là, nous sommes condamnés parce que nous avons fait du mal. Ça, c'est un grand problème. C'est un problème d'ordre psychologique. Ça veut dire que la personne qui est en détention doit avoir la conviction même minimale. Parce que nous défendons les gens. Mais on sait quand est-ce qu'on défend quelqu'un et qu'il a conscience qu'il a mal fait. Donc la personne qui est en prison doit avoir une conscience, ne fût-ce que minimale, du fait qu'elle a mal fait. Lorsque cette personne n'a pas conscience, ou le grand nombre de personnes qui sont là n'ont pas conscience qu'ils ont mal fait, ils ont enfreint la loi, et que ceux qui sont dehors sont parfois plus mauvais qu'elles, c'est normal qu'elles se révoltent. Il y a déjà cette partie qui est une partie psychologique, qui touche au fait que ceux qui sont en prison se disent, nous sommes ici alors que les plus grands criminels sont dehors, ils se pavanent avec des grosses voitures, ils se pavanent, ils sont en cravate. Rappelez-vous qu'on a utilisé ici l'expression des clowns en cravate. C'est déjà un problème. Ça c'est de un. De deux, lorsque vous regardez comment notre justice fonctionne, vous allez comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas se mettre dehors. La loi dit par exemple qu'on ne peut pas arrêter pour cause des dettes. Mais combien de personnes sont là parce qu'il a pris la dette de ceci, la dette de cela? Et nous qui sommes avocats, parfois nous nous mettons à nous battre devant des magistrats. Vous voyez quelqu'un qui a pris une dette, un emprunt, et un monsieur bien influent atteint, saisit un magistrat, et les magistrats l'envoient en prison. Vous lui expliquez qu'il n'y a pas de prison pour des dettes. Ce sont les biens qui répondent des dettes. Ça, le principe du droit. Mais ces personnes sont en prison. Je ne cite que ces cas-là, mais il y en a autant où les gens sont arrêtés alors qu'ils ne devraient pas être arrêtés.
Alors, on peut dire, oui. Maître Kadé, que ça, ce sont des ingrédients qui font aujourd'hui qu'on ait une surpopulation dans les prisons. Mais dès lors que les gens sont déjà en prison, les gens ont évoqué ici la question des formations du personnel pénitentiaire, le rajeunissement de l'administration pénitentiaire, mais aussi hein, les agents de l'ordre qui doivent être commis, leur formation, le budget alloué. Mais au-delà de tout, comment on peut arriver à mettre ça dans une synergie pour exactement arriver à sécuriser même ceux qui sont déjà en prison dans ces conditions-là pour éviter que les gens recourent à l'évasion.
Ces policiers, ils doivent s'occuper d'une personne qui est réellement criminelle. Lorsque la personne qui est en prison n'est pas celle qui devrait être en prison, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que les mesures que vous venez prendre en aval ne servent pas parce que la personne-là, ce n'est pas celle qui devrait. Encore que parfois, celle qui garde cette personne en prison, elle est plus criminelle que celle qui est en prison. C'est tout le problème. C'est un problème de chambardement de la société. Nous sommes dans une société où celui qui devrait être en prison, c'est celui qui contrôle. Je vais vous donner un exemple. Combien de fois vous avez vu sur la route les roulages, les policiers de circulation prendre de l'argent sur les gens? Vous savez que c'est une infraction. Vous avez vu combien de fois on a arrêté des roulages parce qu'ils ont pris de l'argent? Tout ça pose problème.
C'est le gros problème.
Voilà. Quand vous posez le problème, vous dites non, il faut qu'on mette les caméras, qu'il faut qu'on mette les policiers. Mais les policiers ne serviront à rien dès lors que les personnes qui sont en prison, ce ne sont pas celles qui devraient être en prison. Et ça, je vous l'ai dit en tant que, d'une certaine manière, en tant qu'avocat. Il y a beaucoup de personnes qui devraient être en prison, mais qui n'y sont pas.
Et c'est la problématique, effectivement, de la surpopulation. Mais vous estimez que le système doit être repensé globalement, que ce soit dans l'administration de la justice, mais aussi des mesures qui doivent être prises quand les gens sont déjà en prison pour essayer de les encadrer. Parce que vous avez évoqué là l'effet psychologique, c'est pourquoi il y a certains compatriotes qui ont estimé qu'il faut vraiment se pencher sérieusement sur cette question, que ce soit en amont comme en aval. Claude, vous êtes à Likassi, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Claude.
Bonjour monsieur le journaliste, merci pour m'avoir associé à l'émission d'aujourd'hui.
Oui.
Et qui fait vraiment la une, l'évasion dans nos prisons. Moi, je commence par donner tout d'abord quelques pistes, c'est-à-dire, je souhaiterais que l'on puisse commencer à séparer les condamnés des détenus, c'est-à-dire au niveau des prisons, qui est des cellules pour les condamnés et des cellules pour les détenus. Et qu'on respecte la capacité, n'est-ce pas, fixée par prison. Parce que souvent quand vous parlez, vous dites telle prison a été construite en telle année pour une capacité d'autant. Si on respecte, je crois que ça peut contribuer. Et que je souhaiterais encore que l'on puisse délocaliser certaines prisons qui se trouvent déjà en ce moment au milieu, n'est-ce pas, de la population. Si on peut les délocaliser, hein, les construire un peu à distance, en ce moment-là, ça peut faire que l'on puisse bien sécuriser cela. Et aussi rendre nos magistrats très dispositifs pour que des cas de tension ne puissent pas durer longtemps. Parce que si on prend le terme même prison, vous l'appelez souvent, bon, on l'appelle centre de rééducation. On ne peut rééduquer que celui qui est condamné pour un crime commis et confirmé. Mais on ne peut pas rééduquer celui qui est présumé, qui n'est pas encore condamné. Vous comprenez que si je suis présumé, détenu, peut-être illégalement, et vous me mettez dans un centre pour que je sois rééduqué, je crois que ça ne va pas faire une bonne chose.
Merci.
Et aussi, je voulais savoir, quelle est la durée pour la détention préventive? Et quelles sont généralement les causes pour qu'une détention soit très longue? Et j'ai fini par dire, mais là, peut-être ça va vous faire rire, le président, à une certaine époque, il avait prédit, je me dis, c'était une prophétie, il avait dit, les portes des prisons seront grandement ouvertes. Malheureusement, les gens ne l'avaient pas cru, mais actuellement, voilà, nous sommes déjà, nous arrivons maintenant à l'accomplissement de cette prophétie. Les portes des prisons commencent à être grandement ouvertes.
Là, c'est de vous que vous avez renversé, voilà. Et là, maître Kadewou.
Et tout à l'heure, là, vous avez dit une prison qui est du côté
de Kassangoulou. Non, mais on si on pas, peut en fait, restituer les faits, Claude, l'ouverture des portes des prisons, c'était pour des criminels. C'est pourquoi même l'ancien ministre de la Justice, Luzo Lubambi, avait insisté sur le fait qu'on puisse avoir des clowns en cravate en prison. Cela veut dire qu'il fallait amener ceux qui étaient dans la société, qui commettaient des crimes, qui devaient se retrouver en prison, mais pas l'idée de pouvoir renverser cette pensée. On revient à vous, maître Onésime Ndoudi, avant d'écouter que Justin qui est à Fongourmé. Vous avez suivi les uns et les autres. Cette question revient dans la réforme de la justice, la réforme des services des sécurités. Il y a eu plusieurs initiatives, même avec des ONG. Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pas qui sont faits dans le sens de l'amélioration, que ce soit pour la justice, que ce soit même pour l'administration pénitentiaire, où il y avait un sénateur qui avait même estimé il y a quelques années qu'il fallait avoir une loi adaptée au régime pénitentiaire dans notre pays, maître Ndoudi.
Merci, monsieur le journaliste. En 2006, avec l'ancien ministre Georges Minsay, qui a initié la réforme sur le système pénitentiaire en RDP, mais curieusement, après lui, ceux qui sont venus après lui ont trouvé ça diabolique. Alors, il faut une vraie réforme. Puisque nous faisons partie de l'ONU, il y a les règles minimales de la détention de l'ONU qui déterminent les conditions pour placer quelqu'un en détention. Mais aujourd'hui, chez nous, les lois les traités, les conventions internationales priment sur les lois internes. Mais nos dirigeants sont les premiers violeurs des lois. Ils ne sont pas respectés des lois. S'ils mettaient en place, avant même qu'on arrive à réformer la loi du système, les régimes pénitentiaires en RDC, mais mettre en place, en application, les règles minimales de la détention de l'ONU, on ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés. Nous devons d'abord appeler à l'existence de l'État dans cette matière, puisque dans le domaine pénitentiaire, rien de la loi est respecté. Le surpeuplement carcéral, les ministres de la justice, selon les régimes pénitentiaires en application aujourd'hui en RDC, doivent faire des libertés conditionnelles chaque année, qu'ils n'arrivent pas à faire. Il y a une disposition de cette loi qui donne mandat au chef des établissements, les directeurs, en cas de non-respect de la procédure de la détention, tout celui qu'on comprend comme étant en arrestation arbitraire, lui doit le mettre en liberté, mais qui n'applique pas la loi. Dans l'application, la sécurité aussi repose dans l'application de la loi. Nous avons dit, on peut avoir une bonne loi, on peut réformer aujourd'hui, mais qui mettra en application cette loi? C'est encore ça un problème.
Mmh. Voilà. On va écouter Justin qui est à Fungurume. Merci de nous avoir contacté, Justin. Nous sommes en train d'écheminer vers la fin de cet échange autour de la sécurisation des prisons. Justin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot et Lamenji. Bonjour, les auditeurs de la radio Capi et notre invité qui est au studio actuellement.
On vous écoute.
Oui. Voilà. Je remercie mes prédécesseurs qui ont allé plus loin jusqu'à dérailler même et être même hors sujet. Le cas qui est sur la table aujourd'hui, c'est l'évasion des prisonniers dans des prisons. Nous avons deux formes d'évasion. Il y a une évasion organisée par les prisonniers eux-mêmes dans la prison. Il y a l'évasion organisée dehors. Mais la plupart des cas observés en République démocratique du Congo, c'est l'évasion des cas organisés dehors par les policiers qui gardent le milieu carcéral et les gens qui arrivent menacer la prison. Alors, je voulais dire que nous avons deux causes. Ces deux causes, il y a cause lointaine et cause immédiate. Il y a d'abord là, dans les causes lointaines, il y a une mal recrutement des agents de la sécurité, plutôt. On tombe sur un bandit qui volait déjà, qui faisait des gaffes au village. Il va se faire recruter pour être un policier ou soit un militaire. Et quand il sera garde de prison, on arrive à lui donner quelque chose comme argent, comme quelque chose. Est-ce qu'il pourrait refuser de ne pas recevoir cet argent pour faire évader le militaire, le prisonnier? Donc ça, c'est un. Deux, il y a des agents de la sécurité recrutés sans formation. C'est le cas que nous sommes en train de vivre. Vous circulez avec quelqu'un, on le recrute, il devient un policier, il devient un militaire. Peut-être qu'il va hériter le nom de son grand-père qui était militaire, soit policier. Et lui, il ne connaît absolument rien, M. Pierrot et Lamendi. Donc nous demandons à l'État de revoir pour le recrutement des agents de sécurité. Cela va renforcer la capacité de la sécurité dans notre pays.
C'est pourquoi même notre invité a évoqué il faut permettre aussi au dernier auditeur de pouvoir s'exprimer, Justin. C'est pourquoi au début l'invité a insisté sur la formation du personnel qui travaille au niveau de prison. Mais vous l'avez dit, hein, presque tous on est resté autour de la sécurisation, quand bien même les gens ont estimé que les mesures doivent être prises en amont et en aval. Et c'est comme ça que chacun a pu proposer, en partant même de l'arrestation jusqu'à à la détention. On va terminer avec vous rapidement, Maître Sonville. Pour vous, quelles sont les mesures efficaces aujourd'hui qui doivent être prises pour la sécurisation des prisons à travers le pays?
De toutes les façons, M. Pierrot, bonjour, et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi. Par rapport à la thématique, moi je dirais ceci. Il y a des causes qui ne sont même pas à chercher Parce qu'aujourd'hui, les établissements carcéraux ne sont que ces établissements qui ont été construits par la colonie, non, notre métropole, notre autre que la Belgique. Et au-delà de ça, moi je dirais ceci. Lorsque on procède à des arrestations arbitraires, la capacité d'accueil de nos prisons n'a jamais été changée. Il y a surpopulation dans nos prisons. Et aujourd'hui, pour le moment, lorsqu'on arrête quelqu'un au niveau du parquet, même, c'est-à-dire une seule journée, on l'envoie à prison pour qu'il passe en chambre de conseil. Une fois qu'il passe en chambre de conseil, on confirme la détention. Et il n'y a pas question de finir la détention. On confirme toujours. Mais aussi longtemps que la capacité d'accueil n'a jamais été améliorée. Au-delà de ça, par rapport aussi à l'évasion, il y a les évasions qui sont organisées par le pouvoir. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous avons connu les cas ici à Lubumbashi, les cas d'évasion de Gédéon. Maintenant, il était fugitif. Il a été accueilli en pompe par l'ex-gouverneur Kazembe. Comment est-ce qu'un monsieur qui a fui la prison et à son retour, il est accueilli et il y a même des cérémonies qui sont organisées. À ce moment-là, je dirais qu'il y a complicité du pouvoir. Et d'ailleurs, pour même Némi Mwanansé, nous soupçonnons, nous avons oui dit, peut-être qu'on aurait libéré Mouni Mwanansé, mais ces gens...
On ne va pas se verser... ne va pas verser dans des oui dire des rumeurs maître Sonville. On laisse les autorités faire leur travail. Vous savez, quand il y a chaque événement au Congo, les réseaux sociaux, chacun écrit ce qu'il veut. Mais je crois que ce qui doit être très intéressant, c'est parce qu'on ne doit pas se focaliser peut-être sur une personne, parce que ce sont des milliers de personnes. Il y en a qui se sont évadés, il y en a qui ont été blessés. C'est pourquoi la question de la sécurisation doit être considérée. Et là, parce qu'on a que 30 secondes pour terminer, quel est l'autre mécanisme efficace qui doit être mis en place pour accompagner cette sécurisation?
Moi, j'estime qu'il faut construire des amigos. Nous avons des commissariats. Et sous commissariat, il n'y a pas d'amigos. Lorsque quelqu'un n'est pas encore passé en chambre de conseil, lorsqu'on le place même sous mandat d'arrêt provisoire, okay, il faudrait qu'il y ait même confrontation. Jamais il y a une confrontation. Qu'on construise les amigos. Là,
merci.
Il y a des commissariats, là où il y a des sous-commissariats, avant d'avoir quelqu'un en prison.
Merci beaucoup, maître Sonville. Je crois que c'est l'ensemble de ces mesures, mais les restes, on laisse la responsabilité au pouvoir public. Les ministres l'ont annoncé, les enquêtes sont en cours pour savoir qui est responsable de quoi. Mais la question aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes, et il faut qu'on se mette ensemble pour cela. Et on revient à vous, maître Onésime Ndoudi. Juste un mot en 10 secondes pour clôturer cet échange, maître.
Merci, messieurs les journalistes. À maintes reprises, j'ai déjà proposé à plusieurs ministres de pouvoir privatiser le système pénitentiaire en RDC. Si nous pouvons trouver une bonne solution dans ces problèmes. Et la deuxième chose, il faut séparer les condamnés aux prévenus. On doit savoir qui est prisonnier et qui ne l'est pas.
Voilà, merci beaucoup maître Onésime Ndoudi. Vous êtes président de l'Organisation congolaise pour la défense de prisonniers. Merci et merci à tous les auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets cruciaux sur la sécurité dans nos prisons. Nous vous disons tous merci. Au revoir.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde de ce programme réalisé par Nico Kalamba et Piro. Et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Mais l'émission c'est sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.